Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre sur le podcast Il était quelquefois. Donc dans le chapitre précédent, il s'est passé que vous avez découvert l'origine du titre du roman en fait, hein, n'est-ce pas ? Armand et Lilou sont devenus un peu plus proches. Lilou a pris un peu les devants, hein, forcément, ça fait partie un peu de son plan. Elle décide de se rapprocher d'Armand pour que Antoine soit un petit peu jaloux, etc. Mais mine de rien, finalement, elle aime beaucoup Armand, elle l'apprécie. Il a ce côté mystérieux, un petit peu magique, on va dire. Et puis, il lui avait parlé, il y a quelques mois de ça déjà, de ces fameux parfums qu'il reconnaissait chez les gens. Et elle revient un petit peu sur le sujet et il lui affirme que, de son côté, elle sent quelque chose de glacé. Elle a un parfum glacé. Et d'où le titre du roman. Voilà, comme ça, vous avez l'origine, n'est-ce pas ? Après ça, Lilou est aussi un petit peu embarquée. Forcément, Armand ressemble beaucoup à son frère. Et puis, elle va l'embrasser. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 43, Les Vernes, hiver 1947. Quand je repense à tout ça, une vague de honte monstrueuse me submerge, et il en a été ainsi durant toute ma vie d'adulte. Comment n'ai-je rien vu, rien compris cette année-là ? Encore aujourd'hui, je me pose la question 100 fois, 1000 fois par jour. Et 100 fois, 1000 fois par jour, ce sont les mêmes piqûres brûlantes d'humiliation qui me transpercent de part en part, puisque véritablement, je me rends compte que j'ai vécu dans un monde parallèle pendant plus d'un an. Tout était là pourtant, sous mes yeux, depuis le début, et si je n'ai rien vu, c'est de ma faute. Si j'ai été dupée, ce n'est que par moi-même. Est-ce que l'amour rend aveugle, vraiment comme on le dit dans les chansons ? Quoi d'autre sinon ? Car même si j'ai certains défauts, la bêtise n'en fait pas partie. Et je dis cela sans vanité aucune. C'est simplement ce qui résulte de mon parcours de vie. Car on peut dire que j'ai réussi dans la vie, si l'on entend par la richesse, luxe et une certaine notoriété dont je me fiche comme d'une guigne. J'ai même eu une vie de famille, si l'on peut appeler ça comme ça, mariée à un homme que j'exécrais, mère d'une petite fille adorable que je ne parvenais pourtant pas à aimer et qui s'en était rendu compte très tôt, puisque les enfants possèdent, j'en suis certaine, un instinct spécial, détecteur d'amour, donna donc le sien à son monstrueux père, cet homme qui profita lâchement de ma faiblesse, de ma jeunesse et de ma vulnérabilité après les horribles événements de l'été 1948. C'est à la fin novembre que Antoine et Joe refirent leur apparition au Verne. Comme d'habitude, ce fut Clara qui alla les chercher à la gare, en revoyant Antoine, plus enjoué et plus chaleureux que jamais, plus épanoui aussi, comme si ce séjour à Paris lui avait conféré une nouvelle impulsion, une nouvelle joie de vivre, je ne pus que constater que mon amour pour lui, loin d'avoir faibli, me submergea à nouveau. Clara, pendue à son cou, finissait de lui raconter une de ses nombreuses anecdotes en riant et il lui plaqua un baiser sur les lèvres, ce qui, sans que je comprenne pourquoi, déclencha l'hilarité de Joe qui sortait à son tour de la voiture. Après m'avoir salué d'un sourire et d'un signe de la main, ce dernier se dirigea vers la maison en déclarant aller prendre des nouvelles de sa sœur. Depuis quelque temps, Valentine gardait à nouveau la chambre et nous ne l'apercevions pratiquement pas de toute la journée. Armand allait lui rendre visite chaque après-midi, parfois en compagnie de Clara ou de Ursula Bader qui, à mon avis, commençait à prendre un peu trop ses aises à la maison, prétextant l'état de Valentine pour passer presque tous les jours. À force de cajolerie et d'encouragement, Clara parvenait parfois à faire sortir sa majesté de son antre et elle nous rejoignait au salon, demandant qu'Armand ou Clara joue un morceau au piano. Quand le soir, elle daignait nous rejoindre à la cuisine pour manger avec nous à la grande table familiale, tous les regards étaient tournés vers elle et chacun s'employait à prévenir ses désirs. Parfois, j'avais envie de hurler « Mais laissez-la, cette femme ne mérite pas tout le mal que vous vous donnez, elle a bien cherché ce qui lui arrive et ne peut s'en prendre qu'à elle-même ». Mais je gardais mes réflexions pour moi-même, même quand je voyais Armand triste et préoccupé après ses visites. « Pourquoi continues-tu d'y aller ?» lui demandai-je un jour, énervé alors qu'il venait de m'avouer qu'il trouvait Valentine particulièrement abattue depuis quelque temps. Nous nous promenions en direction de la forêt, comme souvent, côte à côte, afin de rejoindre Basile qui coupait du bois à la clairière. Il me regarda sans comprendre. « Je veux dire, » repris-je, « visiblement, tes visites ne lui font aucun effet. Elles semblent même plus tristes encore après chacune d'elles. Donc je me demande juste pourquoi tu continues d'y aller. Est-ce que ça ne serait pas plutôt à Antoine d'y aller ? Ce serait plus logique, non ?» Il s'arrêta soudain et me regarda d'une façon que je ne pus expliquer, comme intrigué, désarçonné et répondit après un moment. « Plus logique ? Pourquoi plus logique ?»« Mais parce que c'est lui le père de son enfant, voyons. Il l'a assez aimé pour lui en faire un et maintenant il la laisse seule. C'est un peu facile, non ?» Comme il ne répondait toujours pas, ayant repris sa marche plus lentement, j'insistais. « Armand, tu n'es pas d'accord ?» Il leva la main, me faisant signe de me taire et rétorqua. « Oui, oui, tu as raison. Je vois ce que tu veux dire. Écoute, ne parlons plus de ça, veux-tu ? J'avais oublié. » Il marchait à grands pas à présent et c'est en trottant à ses côtés que je demandais. « Oublié ? Oublié quoi ?» Il me regarda enfin, l'air un peu perdu, un peu égaré, puis répondit. « Rien, c'est juste que Valentine est mon amie, depuis notre enfance, et je m'inquiète pour elle. »« Oui, je sais, tout le monde s'inquiète pour elle, il me semble. » »« Elle est enceinte, c'est normal que nous nous inquiétions, tu ne crois pas ?»« Justement, elle est enceinte, elle n'est pas malade, que je sache. Il me semble qu'on fait beaucoup d'histoires pour elle. » Sans que je m'en aperçoive, j'avais dû parler sur un ton sec, car Armand, les sourcils froncés, se tourna vers moi. « Tu n'aimes pas Valentine ?» Ce n'était pas une question, mais je tentais tout de même de me rattraper. « Ce n'est pas ça, je n'ai rien contre elle, mais je trouve qu'elle a bien de la chance de vous avoir tous. » Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis se ravisa, en secouant la tête et se contenta de me sourire en répondant. « Oui, c'est vrai, elle a de la chance de nous avoir, mais nous aussi, nous avons de la chance de l'avoir. » Bien qu'en total désaccord avec cette affirmation, je n'osais le contredire. Qu'avait-il donc oublié ? Je compris qu'il me cachait quelque chose, mais je savais aussi qu'il n'allait rien me dire de plus. Aussi, je me contentais de demander sur le ton le plus détaché possible. « Est-ce que tu sais ce qu'elle va faire une fois le bébé arrivé ? Est-ce qu'elle va rester ici avec nous ?» J'avais failli dire « avec Antoine », mais je m'étais reprise assez tôt. « Je ne sais pas exactement, mais oui, j'espère que oui. Elle va sûrement rester au moins quelque temps pour le bébé. » Ça n'était pas du tout la réponse que j'espérais, et j'aurais voulu en savoir plus, mais nous arrivions près de la clairière où Basile nous attendait afin de charger les fagots, et je ne pus continuer cette discussion. Le lendemain, alors que je remontais de la cave chargée d'un panier de pommes destiné à la préparation d'une tarte, j'entendis le bruit d'un moteur dans la cour. Comme je savais Clara enfermée avec Valentine dans la chambre de cette dernière, je me précipitais dehors, intriguée. Nous ne recevions que fort peu de visites, surtout depuis la grossesse de Valentine, et je me demandais bien qui cela pouvait être. Un couple d'une soixantaine d'années sortait d'une voiture de luxe. Elle, coiffée d'une affreuse toque de fourrure et vêtue également d'un manteau de fourrure noire, qui lui tombait presque jusqu'aux pieds, les oreilles ornées de lourdes boucles et les doigts de bagues serties de pierres que je ne sus identifier. Elle souriait, mais d'emblée je perçus sa méchanceté et sa fourberie. Je ne saurais dire comment. Lui aussi, grand, chauve, l'air compassé, semblait insignifiant à côté de sa femme. Ils s'avancèrent vers moi en grande enjambée et aussitôt, sans même me saluer, me demandèrent d'un ton sec si monsieur et madame Page se trouvaient là. Comme je balbutais une réponse, j'entendis quelqu'un descendre précipitamment l'escalier derrière moi. Antoine, une expression que je ne lui avais jamais vue, mélange de stupéfaction et de colère, arriva à notre hauteur. « Tante Octavia, oncle Augustin, que faites-vous ici ? » demanda-t-il sans prendre la peine de les saluer, ce qui parut déplaire souverainement à la femme qui serra son sac à main contre elle, comme si elle voulait en faire son bouclier. « Eh bien, bonjour Antoine !» dit-elle d'un ton aigre. Si elle pensait que ce dernier allait se confondre en excuses et la saluer en retour, elle en fut pour ses frais. Antoine, les lèvres serrées et les yeux réduits à deux fentes, se contenta de hocher la tête brièvement et réitéra sa question. « Nous sommes simplement venus voir comment vous alliez, Clara et toi, » répondit la femme. « Nous sommes aussi de ta famille maintenant, au cas où tu l'aurais oublié. »« Non, je ne l'ai pas oublié, et je ne risque pas de l'oublier de sitôt. Je répète ma question. Qu'êtes-vous venu faire ici ? Pour prendre de nos nouvelles, il suffisait d'écrire. »« Nous l'avons fait, mais nous n'avons jamais reçu de réponse. » La femme se tourna vers son mari qui n'avait toujours pas ouvert la bouche, puis comme si elle prenait soudain conscience de ma présence, se tourna vers moi, et afin de se donner une contenance, m'apostropha. « Jeune fille, pourriez-vous nous indiquer le salon et nous apporter quelque chose à boire ? Nous avons fait beaucoup d'heures de voiture et nous sommes épuisés. Comme tu peux t'en douter, » continua-t-elle en se tournant à nouveau vers Antoine, faisant comme si je n'existais déjà plus. À ma grande surprise, Antoine vint vers moi et posa sa main sur mon épaule, comme pour me protéger de je ne sais quoi, de cette femme sans doute, et déclara. « Lilou a d'autres choses à faire. Lilou, est-ce que tu... Antoine ?» C'était la voix de Clara qui nous parvenait d'en haut. Nous ne l'apercevions pas encore, mais elle n'allait sans doute pas tarder à descendre. Antoine paraissant soudain affolé, je décidai de prendre les choses en main et déclarai. « Je vais monter voir si Clara se sent mieux, ne vous inquiétez pas », fis-je en montant vivement l'escalier avant que Clara n'apparaisse. En effet, elle venait aux nouvelles, et quand je lui eus expliqué qui se trouvait en bas, elle eut la même expression de stupéfaction et de colère qu'Antoine. Mais il me semble apercevoir également une sorte de profond dégoût. « Oh, je ne veux pas les voir, je ne veux pas les voir !» s'exclama-t-elle. Et à ma grande surprise, je vis qu'elle était sur le point de pleurer. Jamais depuis que j'étais au Verne, je n'avais vu Clara aussi bouleversée. « Qui donc étaient ces gens et pour quelles raisons Clara et Antoine semblaient les détester à ce point ? Je pense que vous n'avez pas besoin de les voir, fis-je en la prenant par la main et en l'entraînant vers la chambre de Valentine, qui se trouvait plus près de nous. Quand nous eûmes mis Valentine au courant, cette dernière, assise dans l'unique fauteuil de la pièce, un livre ouvert sur les genoux, sembla elle aussi catastrophée. « Oh non, pas eux, pas ici !» Antoine se trouve avec eux en bas, fit Clara d'une voix altérée. « Mais il ne faut pas qu'ils me voient et... Oh » fit-elle soudain en plaquant une main sur sa joue. « Il ne faut surtout pas qu'ils voient Vic, surtout pas Vic !» Je fronçais les sourcils. Qui était Vic ? Mais je n'eus pas le temps de poser la question. Clara, qui semblait reprendre le contrôle, déclara. « Ils m'ont entendu quand j'ai appelé Antoine, donc je ne peux faire autrement que de descendre. »« Non, Clara, pas après ce qu'ils t'ont fait !» « Valentine, je n'ai pas le choix, et finalement, c'est peut-être mieux ainsi. »« Comment ça mieux ? Tout est fichu, tu veux dire ? Ils vont bien se rendre compte que tu n'es pas enceinte !»« Ils ne vont se rendre compte de rien du tout. Toi, Valentine, tu restes bien planquée ici, il ne faut pas qu'ils se doutent de ta présence. »« Oui, mais toi, Lilou, » fit Clara en l'interrompant, « tu tâches de retrouver Joe au plus vite. Tu lui expliques que tante Octavia et oncle Augustin sont là, que nous allons faire notre possible pour qu'ils repartent très très vite, et qu'en attendant, il ne faut surtout pas qu'ils se montrent. » Comme j'ouvrais la bouche pour demander des explications, elle me poussa gentiment hors de la chambre en m'adjurant de faire vite et surtout d'être discrète. Je descendis prestement l'escalier et en jetant un coup d'œil vers la cuisine, je vis l'homme et la femme assis côte à côte, raides et guindés sur le banc d'angle. Comme j'entendais des cliquetis, j'en déduisis qu'Antoine leur préparait du thé ou du café. Je pensais bien que Joe ne se trouverait pas au salon, car alors il aurait lui aussi entendu les visiteurs et serait venu aux nouvelles. Sans prendre la peine de revêtir mon manteau, je me précipitais dehors, pensant le trouver à l'atelier d'Antoine, puisqu'ils travaillaient ensemble sur le nouveau livre. Mais je n'y croyais pas trop, car le bruit du moteur lui serait parvenu. J'allais tout de même frapper sans conviction, et quelle ne fut pas ma surprise de le voir apparaître sur le pas de la porte. « Lilou ? Oh, nous avons de la visite à ce que je vois, » fit-il en découvrant la voiture devant le porche. En voyant son visage ensommeillé et ses cheveux blonds, habituellement si bien peignés, en désordre, je compris qu'il s'était endormi sur le sofa et j'en fus soulagée. Je lui expliquai brièvement la situation et à l'instar des trois autres, lui aussi eut cet air stupéfait et indigné. Je ne lui laissai guère le loisir de me poser plus de questions et lui enjoignis de rester terré à l'atelier durant la visite, même si cette solution n'eut pas l'air de lui plaire. Il obéit et rentra, non sans avoir encore jeté un regard peu amène en direction de la voiture. Les voix qui me parvenaient de la cuisine m'apprirent que Clara avait rejoint les invités et je décidai d'aller les rejoindre afin de la rassurer d'un signe de tête. Je ne m'attendais certainement pas au spectacle qui s'offrit à mes yeux et eus bien du mal à cacher ma surprise.